Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman, avec aujourd'hui
Philippe Bouchard.
Nous allons parler avec le professeur Philippe Bouchard d'un syndrome qu'on appelle les ovaires polykystiques, qui est un syndrome qui touche un certain nombre de jeunes femmes et de femmes, et qui pose de multiples problèmes endocriniens, métaboliques, d'infertilité. Et c'est un syndrome qui a toute une histoire et nous allons la voir avec le professeur Philippe Bouchard, qui est donc professeur émérite d'endocrinologie, qui a été chef de service d'endocrinologie à l'hôpital Saint-Antoine, directeur d'une équipe de recherche, qui est membre de l'Académie de médecine, qui est consulté fréquemment par le Population Council, qui a été président de la Société française d'endocrinologie, de la Société européenne d'endocrinologie, autrement dit, quelqu'un qui est bien dans ce domaine complexe des relations entre ces organes que sont l'ovaire, l'hypophyse, le cerveau, et qui produisent donc parfois des dystrophies, ce qu'on appelle des dystrophies, des ovaires polykystiques ou micropolykystiques. Il y a plusieurs noms qui ont été donnés pour cette maladie, qui en fait est représentée un tableau assez connu, mais d'un peintre non connu, puisqu'il n'est pas signé, qui date du XVIIe siècle, où il y a deux personnes, une femme à barbe qui donne un allaitement avec une barbe assez conséquente, qui allaite, et puis un homme à côté, c'est pas lui qui nous intéresse, c'est elle, du fait que ce soit une femme à barbe. Est-ce que c'est le symbole ou la représentation des ovaires polykystiques ?
C'est une vision très extrême de la présentation du syndrome des ovaires polykystiques, mais d'abord, il faut dire que la terminologie syndrome des ovaires polykystiques est fausse, évidemment, puisqu'elle remonte aux années 1930, 1935 exactement, lorsque deux gynécologues américains, Stein et Leventhal, ont eu l'idée de regarder les ovaires de ces femmes. On va définir le tableau dans un instant, qui présentait les troubles des règles et une hyperandrogénie, et qui ont constaté que ces ovaires étaient pleins de petites structures liquidiennes. Ils avaient dit que c'était un aspect d'ovaires en contenant des huîtres, oyster ovary à l'époque, et en réalité ce sont ni des kystes, ni des huîtres évidemment, ce sont des follicules normaux. Donc ce sont des ovaires multifolliculaires.
Donc des follicules, rappelons-le, qui contiennent un ovocyte.
Voilà, chaque follicule contient un ovocyte. Le nombre est limité dans la vie. Il y en a 4-5 millions pendant la vie embryonnaire, 1 million à la naissance, 500 000 à la puberté et globalement zéro à la ménopause.
Et puis
donc
chaque cycle,
mois, voilà, il y a un follicule qui aboutit à la dominance et qui va permettre l'ovulation. Donc dans cette maladie, syndrome des ovaires polykystiques ou ovaires multifolliculaires, il existe des anomalies de l'ovulation qui sont responsables des troubles des règles. Donc ceci dit, c'est la première maladie hormonale de la femme qui touche probablement entre 15 et 20% des femmes à travers le monde. Chaque jeune qui débute à l'adolescence, chaque jeune femme qui présente des troubles des règles, qui a un peu d'acné et quelques poils, est suspecte d'avoir un syndrome des ovaires polykystiques. C'est donc une pathologie extrêmement fréquente qui, en plus, voit son expression amplifiée par le surpoids, par l'obésité, laquelle est devenue épidémique dans un certain nombre de pays, ce qui fait que cette maladie devient de plus en plus symptomatique.
Alors, à l'époque de Stein et Leventhal, il n'y avait pas de d'échographie, il n'y avait pas de laparoscopie, on allait voir en ouvrant, Et donc, ils ont effectivement fait des interventions chirurgicales où ils ont vu donc ces gros ovaires porcelaine, hein, qui étaient comme ça augmentés de volume avec une coque, et puis sous la coque des petits vers de montre qui bombent, qui sont donc ces fameux follicules. Peut-être on peut juste rappeler avec vous, Philippe Bouchard, ce phénomène. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure de dominance, c'est-à-dire comment ça se passe puisqu'il y a tellement de follicules. Vous avez parlé de millions à la naissance, et lorsqu'un cycle commence, comment se fait-il qu'il y a une seule ovulation chez la femme par rapport à d'autres espèces animales?
Alors, c'est parce qu'il y a une régulation. Il y a beaucoup de follicules dans l'ovaire, mais certains se développent à une vitesse très lente. Ils sont là en réserve, en quelque sorte. C'est les follicules primordiaux, primaires, secondaires. Chaque mois, il y a un phénomène crucial qui va permettre le recrutement d'un follicule. C'est à partir du moment où les règles surviennent, l'élévation d'une hormone hypophysaire qu'ils appellent la FSH. Et cette hormone hypophysaire ou FSH va permettre la sélection cyclique, mensuelle, d'un follicule et le conduire jusqu'à l'ovulation. Et pour éviter, le constructeur a fait les choses de manière subtile, pour éviter qu'il y ait trop de follicules recrutés chaque mois, la sécrétion de FSH, qui est le signal hormonal clé du recrutement folliculaire, est régulée négativement par les hormones fabriquées par le follicule en croissance.
C'est-à-dire
que si la FSH agit donc sur les follicules...
La FSH qui provient de l'hypophyse.
L'hormone folliculaire de l'hypophysaire va donc stimuler des follicules au stade de 2 à 4 mm. Et cet FSH va permettre la croissance du follicule et en même temps assurer la sécrétion d'estrogène, d'estradiol par l'ovaire. Et cette sécrétion d'estradiol, en retour, va limiter l'élévation de la FSH, limiter sa durée. Ce qui fait qu'un seul follicule est sélectionné.
Donc il y a un équilibre.
C'est exactement, René Friedman, vous allez comprendre, c'est exactement l'inverse des gynécologues. C'est-à-dire que les gynécologues qui traitent l'infertilité stimulent les femmes par des doses importantes de FSH, laquelle est responsable d'un développement multifolliculaire. Au cours du cycle normal, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la FSH sert bien à la même fonction, mais que son élévation dans le sang est limitée dans le temps grâce à une contre-régulation ovarienne qui en limite la portée. Ce qui explique que les femmes n'ont qu'un seul enfant, voire deux éventuellement, mais pas comme dans d'autres espèces où il y a de multiples ovocytes qui sont fécondés.
Mais alors, il y a un phénomène, c'est que au tout début du cycle, il y a 4-5 follicules qui sont là, qui commencent timidement à augmenter. Et ensuite, il y a quelque chose qui va faire que la majorité de ces follicules s'arrêtent. Il y en a un seul, vous avez dit tout à l'heure, Philippe Bouchard, le dominant. Les autres font en apoptose, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter de fonctionner, sauf qu'on leur donne en plus le traitement des gynécologues, comme vous disiez, qui va permettre de recruter donc ceux qui allaient s'arrêter, qui vont être recrutés, parmi lesquels il y aura aussi des follicules. Donc ça c'est la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans les ovaires polykystiques? Pourquoi est-ce que c'est ce phénomène de blocage de l'apoptose, c'est-à-dire de ces follicules qui sont sur la ligne de départ, sur les certains blocs, et qui normalement ne partent pas tous, mais là, ils partent tous et ils s'accumulent à la fin?
Il y a chez ces femmes, encore une fois, l'anomalie hormonale la plus fréquente des femmes, à début pendant la vie de l'adolescence, des troubles des règles. Et ces troubles des règles sont liés à une ovulation qui se fait mal, simplement parce que il existe chez elles un trait génétique qu'elles ont hérité d'un développement multifolliculaire dans l'ovaire. Elles ont plus de follicules que les autres. Et ce développement multifolliculaire dans l'ovaire va avoir comme conséquence le fait que ces follicules fabriquent beaucoup plus d'hormones masculines qu'ils ne devraient, d'où les symptômes d'acné et de poils, et deuxièmement, aboutir moins fréquemment à l'ovulation. Donc c'est une maladie génétique de la folliculogénèse, du développement folliculaire dans l'ovaire. On commence à avoir une idée des gènes qui sont impliqués. Et en second lieu, ce compactage de l'ovaire qui est plein de follicules et qui fabrique trop d'hormones masculines, ovule moins souvent que les autres. Donc la maladie s'auto-aggravent d'un mois à l'autre. Les femmes qui présentent des troubles des règles et des poils en excès, on connaît ça depuis l'Antiquité. Et quand on relit les grands auteurs, le René Friedman de l'époque, Soranos d'Éphèse, qui était le médecin de l'empereur Trajan, il y a quelques années, donc en 125 après Jésus-Christ, a écrit un grand traité de gynécologie. Il avait déjà décrit parfaitement ce tableau de troubles des règles, d'infertilité associés à une production excessive d'hormones masculines. Mais alors, si cette maladie existait déjà dans l'Antiquité, si elle est responsable de poils en excès et si elle est responsable d'infertilité par troubles de l'ovulation, pourquoi donc est-elle toujours présente? Bien, la réponse, c'est que sur ce fond génétique de développement multifolliculaire et de production excessive d'androgènes, il y a un phénomène d'amplification possible qui est l'obésité, le surpoids. Si la même femme qui présente un syndrome des ovaires polykystiques dans une variété sévère, avec des règles de 2-3 fois par an et une production d'hormones masculines excessive, maigrit, le phénotype va disparaître et tout va se normaliser. Elle va se mettre à ovuler tout à fait régulièrement. Donc c'est une maladie où le mode de vie, l'alimentation et le poids jouent un rôle régulateur sur cet développement excessif folliculaire.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une base génétique? Vous allez nous dire les découvertes récentes qui ont tendance à montrer donc qu'il y a une base génétique, mais aussi une épigénétique, puisque l'environnement peut jouer et peut intervenir, puisque, comme vous l'avez dit, les amaigrissements, pour celles qui sont obèses, car elles ne sont pas toutes obèses, mais pour celles qui sont obèses, va permettre de restaurer une fonction ovarienne correcte.
Alors, d'abord, ça n'est pas l'obésité ne fait pas partie du tableau du syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est un facteur d'amplification lorsqu'elle existe. Deuxièmement, la transmission, elle est évidemment génétique. Les études chez les jumelles montrent que la sœur jumelle a 70% de chances d'exprimer les mêmes troubles des règles, les mêmes acnés, les mêmes poils, ce qui suggère bien une transmission type dominante. Et aux États-Unis, Richard Legros, qui est un gynécologue très impliqué dans les études sur les ovaires polykystiques, a fait une étude extraordinaire. Il a regardé les sœurs des femmes qui étaient considérées comme ayant des ovaires polykystiques sur des critères qu'on va définir. Eh bien, il a constaté qu'une sœur sur deux est atteinte et que celles qui sont le plus atteintes sont les plus obèses. Donc, c'est bien une maladie à transmission génétique autosomique et dominante, et que sur cette transmission génétique, il existe un facteur d'amplification possible qui est le surpoids. Si on évite ce facteur d'amplification, le tableau clinique présenté par ces femmes est tout à fait mineur.
Donc, quand faut-il penser à l'existence d'un syndrome des ovaires polykystiques, Philippe Bouchard? Vous l'avez dit, les troubles des règles, donc c'est quelque chose qui s'installe à l'adolescence?
Oui, c'est peut-être la question la plus importante. C'est les circonstances qui amènent à la découverte d'ovaires polykystiques doivent être connues de tous les médecins, pas seulement les gynécologues, les endocrinologues, mais aussi les médecins généralistes, évidemment, et les mamans de ces jeunes femmes. Elles présentent des troubles des règles, c'est-à-dire des cycles longs, des règles qui sont plus espacées qu'elles ne devraient, à partir de la puberté, s'associent à des petits signes d'hyperandrogénie qui sont l'acné, et les poils excessifs en particulier.
Dans l'acné, c'est très banal à l'adolescence.
Oui, c'est très banal à l'adolescence, mais associé
aux troubles. Et les troubles des règles aussi. Enfin,
oui, on est bien en présence, probablement, d'un dysfonctionnement ovarien qui témoigne d'une expression peut-être modeste, mais d'un syndrome des ovaires polykystiques. Parce que toutes les jeunes femmes qui sont réglées 4 ou 5 fois par an, au lieu d'être réglées tous les mois, à 16-17 ans, sont porteuses d'un syndrome des ovaires polykystiques. Donc le rôle du médecin, c'est de dépister ces symptômes, allongement des cycles, acné et poils, et de ensuite mener des examens très simples pour arriver au diagnostic d'ovaires polykystiques. Et ces critères diagnostiques ont été fabriqués, constitués en 2003, à l'occasion d'une conférence de consensus qui s'est tenue à Rotterdam. On les appelle les critères de Rotterdam, Rotterdam aux Pays-Bas, bien sûr. Et on retient chez ces jeunes femmes qui ont des troubles des règles, trois critères qui sont, un, la mauvaise qualité de l'ovulation, donc les troubles des règles, très facile. Le deuxième, c'est les signes d'hyperandrogynie clinique, c'est-à-dire visibles à l'examen, qui sont donc l'acné et les poils, éventuellement d'une hyperandrogynie biologique, avec un taux de testostérone qui est un petit peu élevé. Et puis, le dernier examen qui permet d'arriver au diagnostic est l'échographie pelvienne.
On va y revenir sur l'échographie.
D'accord. C'est-à-dire l'existence d'ovaires multifolliculaires démontrés par l'imagerie.
On va voir cette imagerie qui a effectivement permis de faire des gros progrès non invasifs, on va dire. Quand vous parlez beaucoup de l'existence de poils, mais comment c'est où et comment par rapport aux poils normaux?
Alors, pour nous, les poils qui sont anormaux et qui doivent être pris en compte sont les poils dans des régions qui sont normalement réservées à l'homme. C'est-à-dire les favoris, la moustache, les poils sur la face antérieure du thorax, entre les seins, ou sur la ligne blanche, c'est-à-dire au-dessus de l'ombilic. Ces poils-là sont pas normaux. Donc leur présence associée aux troubles des règles évoque une maladie des hormones masculines et doit faire évoquer un certain nombre de diagnostics. Alors c'est aussi le rôle du médecin, sur ces critères simples, troubles des règles, signes d'hyperandrogynie discret, acné et poils, que nous appelons hirsutisme, nous, doit aller aux examens d'imagerie ou à leur équivalent pour confirmer le diagnostic. Et enfin, surtout, éliminer un certain nombre de pathologies qui peuvent mimer le syndrome des ovaires polykystiques, mais qui sont beaucoup plus rares, comme les maladies de la surrénale, le syndrome de Cushing, ou une autre maladie de la surrénale qui est une maladie congénitale qu'on appelle le bloc en 21 hydroxylase, qui est une maladie rare, ou transmissible également, où la surrénale ne fabrique pas correctement le cortisol, qui est son hormone physiologique, et de ce fait fabrique un excès d'hormones masculines. Mais 99% des cas, dans 99% des cas, il s'agit du syndrome des ovaires polykystiques.
Professeur Philippe Bouchard, est-ce que il y a des populations qui sont plus atteintes que d'autres dans la région du monde ?
Alors, l'expression clinique de la maladie est présente dans le monde entier.
Déjà.
Oui. Mais les symptômes varient, en particulier en fonction, bien sûr, de l'ethnicité, mais également du surpoids. Et on a très bien montré que des femmes qui, à Sri Lanka ou en Inde, ont un syndrome des ovaires polykystiques, lorsqu'elles vont migrer vers l'Europe du Nord, par exemple, voient leur poids diminuer, la maladie n'être plus apparente, disparaître en quelque sorte. Donc oui, il y a des variantes, mais on en connaît dans le monde entier, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, partout. Et en Chine, récemment, il y a un immense intérêt pour ce syndrome, parce que la suralimentation qu'on observe chez certaines Chinoises augmente encore l'expression clinique de cette affection.
Et est-ce qu'il y a des ethnies particulières qui ont plus que d'autres ? Est-ce qu'au Moyen-Orient, il y a
une fréquence particulière au Moyen-Orient, et disons dans tout le bassin méditerranéen, mais en particulier au Moyen-Orient. C'est un peu comme le diabète de type 2, qui m'a dit assez proche d'ailleurs, comme on le verra, parce qu'au Moyen-Orient, il y a deux facteurs. Il y a souvent une consanguinité, mariage entre cousins, donc les gènes circulent dans la famille, et en second lieu, une suralimentation et un surpoids. Donc toutes les conditions sont réunies pour que la maladie s'exprime. En deux mots, ce qu'on sait aujourd'hui sur la physiopathologie fait intervenir deux composantes. La première, ces femmes ont des ovaires qui fabriquent trop d'hormones masculines. Et ceci est une composante génétique, autosomique et dominante. On connaît des gènes qui sont plus souvent surexprimés chez ces femmes, responsables d'un développement multifolliculaire. Pour vous donner un exemple, chez l'animal, chez la guenon, la singesse, si avant la puberté on lui donne des injections de testostérone, elle va avoir un développement multifolliculaire alors que l'hypophyse n'est pas fonctionnelle. Donc les androgènes sont bien des hormones du développement folliculaire. Et il y a un deuxième facteur, outre l'hyperandrogénie d'origine ovarienne, qui est la résistance à l'insuline. Donc c'est assez simple à comprendre. L'insuline, ça sert essentiellement à faire entrer le sucre dans les cellules, le glucose. Et c'est donc l'hormone qui manque dans le diabète de type 1, où il faut remplacer par l'insuline. Mais chez ces femmes, il existe une résistance à l'insuline. Ça veut dire que les taux d'insuline sont plus élevés. et qu'elle est dépourvue de ses effets classiques sur le transporteur du glucose, sur l'entrée cellulaire du glucose, et l'effet biologique de l'insuline est dévié vers un autre effet qui passe par l'intermédiaire d'une voie de signalisation différente, qu'on appelle le récepteur de l'IGF-1, qui est donc activé seulement lorsqu'il existe une résistance à l'insuline, et ceci est responsable d'une hyperproduction d'hormones masculines par l'ovaire. Donc on peut entrer par les deux voies. Soit on a l'anomalie génétique ovarienne et l'excès d'hormones masculines, soit on a en plus ou seul une résistance à l'insuline qui elle aussi se comporte comme un facteur d'hyperandrogénie ovarienne, qui est la voie finale commune du développement du syndrome des ovaires polykystiques.
Mais est-ce que cette proximité avec les troubles longs de l'insuline amènent à faire des explorations dans ce domaine?
D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que grâce aux Chinois, au Dr Chang en particulier, et plus récemment grâce à Andrea Duneff et Richard Legros aux États-Unis, on a regardé les anomalies, les variations du génome chez ces femmes.
Oui.
Et on a regardé quels étaient les gènes qui étaient le plus souvent les régions du génome, c'est-à-dire des chromosomes humains, du patrimoine génétique, qui étaient impliqués dans la formation des ovaires polykystiques. Et avec surprise, mais pas tant que ça, mais quand même surprise, on a constaté que les gènes impliqués sont des gènes qui ont à voir avec le diabète de type 2, la sensibilité à l'insuline, et des gènes impliqués dans les gonadotrophines, LHFSH, et enfin, troisièmement, avec la fabrication des hormones masculines. Donc, les études moléculaires du génome, faites en Chine, les premières, assez remarquables, du Dr Chang, mais également aux États-Unis, nous confortent dans l'hypothèse qu'il existe une parenté entre le mécanisme du diabète de type 2, qui est la résistance à l'insuline, il y a aussi une anomalie de la sécrétion d'insuline, mais essentiellement la résistance à l'insuline, et la fabrication excessive d'hormones masculines par l'ovaire qui sont impliquées.
France Culture, Révolution Médicale, René Friedman.
Donc nous sommes sur ce syndrome des ovaires polykystiques et nous avons dit que le signe d'appel, c'était donc la jeune fille à l'adolescence qui voit donc des règles qui sont irrégulières 2-3 fois par an ou qui a donc des poils au niveau de la moustache alors que ce n'est pas vraiment l'objectif et qui peut avoir donc une certaine forme d'obésité. Quid de des troubles du cuir chevelu, enfin c'est-à-dire de l'alopécie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire d'un manque de cheveux localisé, ou d'une faiblesse à ce niveau-là.
Quand on fabrique trop d'hormones masculines et qu'on est une jeune femme, soit parce qu'on a le syndrome des ovaires polykystiques, c'est la cause la plus fréquente, ou parce qu'on a une tumeur qui fabrique des hormones masculines, de la surrénale par exemple, l'expression, les symptômes qui en résultent sont l'acné, les poils au niveau du visage, ainsi qu'on l'a dit, dans les régions, et puis sur le thorax et la ligne blanche. Mais dans les formes plus sévères, il existe des anomalies du cuir chevelu. Et ces anomalies du cuir chevelu sont une séborrhée excessive.
Une sécrétion donc de
sébum. De gras par le cuir chevelu. Et le contraire des poils, une chute des cheveux, qu'on appelle l'alopécie androgénétique, qui sont consécutives de l'élévation des hormones masculines. Alors, je voudrais juste insister sur une autre chose, si je peux. Le médecin généraliste et la famille doivent évoquer le diagnostic. Mais une fois que le diagnostic est confirmé, sur des arguments qu'on va discuter, il faudra aussi s'intéresser aux sœurs. Ne pas oublier que c'est probablement pas le seul cas dans la famille.
Alors maintenant, donc, qu'on a vu cet aspect, comment faire le diagnostic concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire comme examen qui va prouver que ce sont des ovaires polykystiques?
Alors d'abord, si on s'adresse à une jeune femme qui a de l'acné, des poils, des troubles des règles, le risque qu'on se trompe en évoquant le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques est minime. 90% d'entre elles ont ce syndrome. Maintenant, il faut aller plus loin et étayer le diagnostic. Dans les critères de Rotterdam, il y a 3 critères. Et la règle internationale, maintenant reconnue par tout le monde, y compris par l'Institut national de la santé des États-Unis d'Amérique, est qu'il y ait 2 critères sur 3. Donc on a dit les troubles des règles, l'hyperandrogénie clinique et biologique, et les anomalies des follicules ovariens. Pour ce qui concerne les explorations biologiques, eh bien le médecin le gynécologue ou l'endocrinologue doivent vérifier le taux des hormones masculines, la testostérone, vérifier également le taux des gonadotrophines, LH et FSH, la LH est souvent élevée, et faire quelques examens très simples pour éliminer les autres causes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rares.
Et en fait, normalement, il y a un rapport, on sécrète beaucoup plus de FSH que de LH, et une des caractéristiques des ovaires polykystiques, c'est justement une inversion ou un changement en tous les cas de ces rapports. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette approche?
Oui, et la conséquence de ça est importante parce que...
LH élevée.
Oui, la LH, bien sûr, sert à l'ovulation au milieu du cycle, mais surtout, c'est la LH qui pilote la fabrication des hormones masculines par l'ovaire. Donc si on a des taux de LH qui sont plus élevés, on a plus de testostérone et d'hormones masculines. Alors pourquoi est-ce que ces femmes ont des taux de LH qui sont plus élevés? On n'a pas de réponse définitive à cette question, mais il y a deux éléments qui y concourent. Le premier, c'est qu'elles n'ovulent pas, donc il n'y a pas de sécrétion de progestérone en deuxième partie de cycle, du fait que les taux de LH ne sont pas réduits par cette hormone, donc ils sont élevés en permanence. Et deuxièmement, il est possible, non démontré mais probable, que la résistance à l'insuline joue un rôle dans l'élévation de la sécrétion de l'ALH par l'hypophyse. Mais c'est un facteur à la fois du diagnostic positif, mais également du mécanisme de l'hyperandrogénie, de la sécrétion excessive d'hormones masculines.
Donc quand on regarde les chiffres au troisième jour du cycle qui n'existe pas, donc que l'on crée ou que l'on ne crée pas par des...
Oui, ou même en aménorrhée, même sans cycle.
Même sans cycle, ou en essayant de provoquer des règles par la progestérone. On va faire un examen qui va montrer donc que l'ALH est le même niveau que la FSH. Déjà, ce point-là est déjà, je dirais, remarquable, et même parfois, peut-être même plus élevé que la FSH, alors que normalement c'est un rapport de 1 sur 4. Et puis, il y a une autre hormone qui apparaît, dont on parle beaucoup ces derniers temps, j'aimerais que vous nous en disiez un mot, qu'on appelle l'AMH. Est-ce que vous pouvez nous traduire l'AMH et nous expliquer en quoi c'est une hormone intéressante dans tous les mécanismes d'ailleurs de la fonction ovarienne?
Alors ici, dans ce syndrome, on utilise le dosage de cette hormone antimullérienne, comme jauge du nombre de follicules dans l'ovaire. Autrement dit, c'est l'équivalent de l'échographie. Alors pourquoi ça s'appelle hormone antimullérienne? C'est un Français, Alfred Jost, dans les années 1940, qui conduisait des expériences maintenant... immortel sur la différence sexuelle masculine chez le lapin, et qui a montré que le testicule de lapin fabrique une hormone qu'on appelle l'hormone antimullérienne, qui permet la disparition de l'utérus, ce qui fait que les hommes n'ont pas d'utérus, les mâles n'ont pas d'utérus.
Oui, parce que rappelons que il y a une double formation au début, mais il faut que ça disparaisse.
Voilà, il faut que ça disparaisse et que l'homme se différencie uniquement en sexe masculin, avec des organes génitaux masculins, une production de testostérone et une régression complète de l'utérus et des trompes. Entre parenthèses, il n'est pas rare qu'un chirurgien me téléphone pour me dire qu'il a opéré un patient d'un appendicite ou je ne sais quoi, d'un cancer du côlon, et qu'il ait constaté un utérus dans la cavité abdominale. Ces hommes-là ont une anomalie de la sécrétion de l'hormone antimullérienne ou de sa signalisation. On appelle ça le syndrome de persistance des canaux de Müller. Mais de manière plus récente, à côté du mécanisme d'action princeps sur la différenciation sexuelle qui a été décrit par Alfred Jost, on s'est rendu compte que cette hormone antimullérienne ou AMH était également fabriquée par les cellules de la granulosa des follicules ovariens chez les femmes après la puberté.
Dans le follicule, il y a l'ovocyte lui-même est entouré
voilà.
De cellules.
Et on sait également que cette hormone antimullérienne est surtout associée aux follicules de petite taille qu'on appelle les follicules en trop. En dernier lieu, on a découvert que le taux d'AMH était fonction du nombre de ces follicules en trop, et que de ce fait, il indique deux choses. Premièrement, s'il en existe un excès, syndrome des ovaires polykystiques, ce qui est très utile chez les femmes avant les rapports sexuels, chez qui on ne peut pas faire d'échographie tout à fait valide, ou bien si elles sont obèses, c'est un excellent critère. Et en second lieu, on s'est rendu compte que le taux d'AMH diminuait avec le temps, avec l'âge, et que si on dresse une courbe annuelle du dosage de l'AMH chez les femmes, on peut tracer une courbe et prédire en quelque sorte l'âge de la ménopause. Donc l'AMH, c'est le reflet du nombre de petits follicules dans l'ovaire. Aujourd'hui, dans le sujet qui nous intéresse, ça nous permet de savoir s'il y a un excès de follicules ou pas. Et en second lieu, chez la femme qui vieillit, c'est un marqueur de la réserve ovarienne.
E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto
Voilà, donc sur la voix fabuleuse de Luciano Pavarotti, Caruso, Philippe Bouchard, sur les ovaires polykystiques. Il n'y a pas de lien, si ce n'est que Pavarotti est assez fort, on va dire, assez enveloppé, et qu'il a une, il avait pendant un temps une belle barbe. Mais nous parlons des femmes qui sont enveloppées, qui ont une barbe, et que surtout qui ont des ovaires polykystiques. C'est ça le sujet du jour. Nous avons vu que, alerte à l'adolescence, lorsqu'il y a des troubles des règles et que s'associe donc une production de poils anachroniques, une pilosité anormale dans son siège, et puis une acné qui est également témoin des troubles des hormones mâles, et puis une obésité, mais pas toujours, puisque c'est un phénomène d'accompagnement. Donc, alerte, faisons le diagnostic par des hormones, aussi par l'échographie. Ensuite, on verra pourquoi il est important de faire un diagnostic tôt pour le suivi, un suivi qui doit se faire lorsque la femme va envisager une grossesse, parce qu'elle va avoir des difficultés à ovuler, et puis à long terme, parce que c'est une maladie qui peut avoir des conséquences métaboliques que vous allez nous expliquer, professeur Philippe Bouchard. Donc, tout d'abord, le diagnostic, on a fait une prise de sang, on a vu l'augmentation de la LH sur la FSH, deux hormones hypophysaires qui sont donc inversées du fait du trouble ovarien. Une augmentation également de l'AMH, tout ça signe parfaitement ce syndrome. Et quid de l'échographie, examen non invasif et qui permet de voir l'ovaire dans son intérieur.
Alors c'est la troisième caractéristique du trépied diagnostique des ovaires polykystiques, troubles des règles, hyperandrogénie clinique ou biologique, et enfin les ovaires multifolliculaires. Donc c'est la mise en évidence par l'échographie ovarienne, au mieux par voie vaginale, mais c'est pas toujours possible, qui montre exactement ce qu'avaient vu Irving Stein et Michael Leventhal en 1935, à l'occasion de l'ouverture du ventre de ces femmes, puisque l'échographie n'existait pas. Il existe dans ces ovaires deux phénomènes. Le plus important est le développement multifolliculaire. Donc beaucoup de follicules normaux qui se sont accumulés. Donc ce ne sont pas des kystes, ce sont bien des follicules normaux qui, au lieu d'être au nombre de 2 ou 3 visibles dans l'ovaire, sont supérieurs à 10 et occupent toute la périphérie de l'ovaire. Et associé à ce développement multifolliculaire, exactement ce qu'avaient vu Stein et Leventhal, deux génies, il existe également une hyperplasie du stroma, c'est-à-dire la partie de l'ovaire qui fabrique les hormones masculines. Donc pour le diagnostic positif des ovaires polykystiques. En réalité, si on ne peut pas faire d'échographie parce que la jeune femme est trop jeune en dose d'hormones antimullériennes qui nous donne une bonne approximation du nombre de follicules dans l'ovaire.
Trop jeune parce que d'habitude on le fait par voie vaginale, mais on peut aussi regarder par voie,
Par voie abdominale. Et l'échographie est absolument indispensable. C'est donc le troisième élément du trépied diagnostique qui montre plus de 10 follicules de moins de ces 8 mm siégeant en périphérie de l'ovaire. Donc c'est un élément diagnostique important. Ce qui est intéressant, et c'est pour apporter un niveau de complexité supplémentaire, c'est que on peut avoir des ovaires multifolliculaires et un tableau clinique qui n'a rien à voir. Je m'explique autrement. Si on est une jeune femme et qu'on a un comportement alimentaire anormal, peut-être pas l'anorexie mentale, mais des formes où il y a une sélection alimentaire majeure et où le poids, l'indice de masse corporelle est faible, eh bien ces femmes ont pas de règles, mais elles n'ont pas du tout de poils. Et lorsqu'on fait l'échographie, on peut avoir la surprise de voir des ovaires multifolliculaires. Ça veut dire qu'elles ont hérité du même fond génétique que le syndrome des ovaires polykystiques, mais simplement sont incapables d'exprimer la maladie par l'hyperandrogénie, par la production excessive d'hormones masculines, tout simplement parce que l'absence d'alimentation correcte, la déprivation calorique, est responsable d'une extinction de LH et FSH, les deux hormones hypophysaires qui contrôlent l'ovaire. Donc, le diagnostic d'ovaires multifolliculaires sur l'échographie ovarienne est évidemment extrêmement important. Alors, ce qu'avaient constaté aussi Stein et Leventhal, mais en ouvrant les ovaires de ces femmes pendant une intervention chirurgicale, c'est que c'est étourdissant qu'ils aient pu réaliser ça, c'est que lorsqu'ils en enlèvent un bout, font une biopsie un peu large, en 1935, on n'était pas très regardant, eh bien, en post-opératoire, il existe une réapparition des règles et parfois de la fertilité. Donc, ils avaient vu, dès 1935, un des éléments du diagnostic, ovaires multifolliculaires, ils ne s'étaient pas rendu compte que c'était des follicules normaux. Et deux, ils avaient montré que si on retire du tissu qui fabrique des hormones masculines excessives dans l'ovaire, on est capable de corriger la maladie pendant un certain temps.
Alors c'était des interventions, comme on dit, en quartier d'orange. On enlève une partie de l'ovaire, ce qu'on a fait d'ailleurs au début dans notre jeunesse, avant qu'on développe des techniques dont on va parler tout à l'heure, par célioscopie. Mais c'est vrai que c'était assez remarquable le fait d'enlever, soit d'ouvrir la coque, soit de diminuer le nombre, en tous les cas, de follicules qui permettent une restauration de l'ovulation. Puisque, on l'a dit, c'est une origine génétique, mais même s'il y a des troubles de la fertilité, ça permet quand même la passation à la génération qui vient. Ce qui veut dire que c'est pas totalement stérilisant, même s'il y a des difficultés à concevoir.
Alors ça, c'est un point très important, et je crois qu'il faut rassurer les femmes à ce sujet. Il y a eu, bien sûr, elles sont gênées par les poils et l'acné et les troubles des règles. Ça a des conséquences sur la muqueuse utérine, etc. Elles ovulent moins souvent que les autres, mais il y a eu une très belle étude qui a été faite en Finlande, qui a été publiée, je crois, en 2008, où ils ont regardé le devenir de la naissance à 45 ans de 6000 Finlandaises. Au moins 20% de ces femmes ont des ovaires polykystiques, Ils ont regardé si, dans la vie, elles avaient une fertilité réduite par rapport aux autres femmes. La réponse est oui, mais un peu seulement. C'est-à-dire qu'on constate qu'elles ont un retard à la première grossesse, qu'elles ont des familles qui excèdent rarement deux, que parfois elles ont recours à la médecine, mais globalement, ça n'est pas une maladie grave au niveau de la fertilité. Elles ont parfois besoin d'un appoint médical, mais la solution est simple à obtenir. Donc il faut rassurer les femmes de ce point de vue. L'infertilité n'est pas du tout... c'est une maladie de l'ovulation qu'on sait corriger parfaitement.
Donc ça, c'est un message important aux mamans de jeunes filles qui nous écoutent et qui ont pu constater un retard d'apparition des règles et qui se posent la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des ovaires polykystiques ? Effectivement, le premier problème qui peut arriver chez cette jeune fille dans les années qui suivent, ça va être, outre la régulation des règles et éventuellement une contraception, mais ça va être ce désir d'enfant quand il va se manifester 10 ans plus tard, en sachant que donc il y a une possibilité d'abord naturelle, et puis ensuite il y a une possibilité de traitement que l'on va aborder. Avant même qu'on termine peut-être notre entretien sur justement le traitement de l'infertilité relative qui peut y avoir chez les femmes qui ont des ovaires polykystiques, qu'en est-il des conséquences sur le plan du métabolisme ? Est-ce que ces jeunes femmes doivent envisager, d'abord parce qu'on le découvre des fois, comme on le sait aujourd'hui, le désir d'enfant étant plus tardif, on est autour de la quarantaine. Donc est-ce que ces femmes doivent avoir un suivi particulier ? Je parle en dehors du désir de grossesse que nous allons revoir.
Alors, c'est la constatation la plus importante qui a été faite vis-à-vis de ces femmes dans ces dernières années, c'est qu'il existe une composante métabolique. Et cette composante métabolique est faite d'un risque augmenté chez elles. Vous vous souvenez qu'elles ont une résistance à l'insuline, souvent, 80% d'entre elles. Et que c'est une anomalie qu'on rencontre dans le diabète de type 2. Donc elles ont un risque de diabète de type 2 qui est à peu près 3-4 fois celui de la population générale, surtout bien sûr si elles sont obèses. Et deuxièmement, elles ont un risque de diabète gestationnel, c'est-à-dire de diabète au cours de la grossesse, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le développement du fœtus et la complexité éventuelle du traitement. Aux Pays-Bas, il a été montré que à peu près 22% des femmes qui présentent un syndrome des ovaires polykystiques ont un diabète gestationnel. Donc, c'est le point qui est extraordinairement nouveau, c'est qu'on est parti d'une maladie hormonale qui intéresse les adolescentes et les jeunes femmes, qui conduit à des troubles de la fertilité, qui nécessitent un traitement gynécologique assez souvent. Et maintenant, on sait qu'il existe des anomalies métaboliques qui peuvent survenir en même temps, mais même après. Et que ces anomalies métaboliques, on les voit plus tard dans la vie, c'est-à-dire après 40 ans, voire même après la ménopause. Donc c'est pour ça que on considère aujourd'hui que la dénomination syndrome des ovaires polykystiques, qui donc touche presque 20% des femmes, est impropre parce qu'elle ne reflète que la description de Stein et Leventhal. Donc c'est bien plus que ça, c'est développement multifolliculaire avec trouble de l'ovulation, mais surtout c'est un syndrome reproductif et métabolique, et que la composante métabolique doit être surveillée de très près. Et lorsque je vois ces jeunes femmes amenées par les mamans un peu inquiètes, je leur dis faites attention au poids, parce que le poids aggrave la symptomatologie des ovaires polykystiques, et en second lieu, il existe un surrisque de diabète de type 2 encore augmenté par le surpoids.
Donc on a bien saisi le message du suivi, je dirais, métabolique de ces patientes.
On s'interroge encore aujourd'hui sur le risque cardiovasculaire de ces femmes, qui est une question de grande importance, puisque c'est la première cause de mortalité dans le monde. Et malgré l'existence du diabète de type 2, malgré le surpoids, le risque cardiovasculaire ne semble pas augmenter de manière très importante. On ne sait pas bien pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que le rôle du médecin qui voit ces femmes doit être d'une très grande vigilance vis-à-vis des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, outre le poids, la pression artérielle, qui doit être absolument normale, et traiter si elle n'est pas normale, traiter les hypertriglycéridémies, les hypercholestérolémies. Puis il y a un dernier paramètre métabolique sur lequel on insiste beaucoup maintenant, qui est le foie gras, la stéatose hépatique, qui est la conséquence de l'enrichissement du foie en triglycérides et en graisse, avec des anomalies des enzymes du foie, en particulier des azates, qui conduit souvent une échographie pour visualiser cette stéatose. Et c'est aussi un facteur de risque indépendant. Donc elles ont une augmentation du risque métabolique, surtout si elles sont plus grosses qu'elles ne devraient, et imposent donc une surveillance pour le diagnostic précoce de diabète de type 2, de diabète gestationnel, de stéatose hépatique.
Alors, évidemment, le problème de la fertilité, nous l'avons abordé pendant toute cette émission, il reste quand même le problème numéro un, même si le suivi métabolique que vous venez d'aborder est fondamental. Premièrement, est-ce qu'il y a plus de fausses couches chez les femmes porteuses de ce syndrome lorsqu'elles sont enceintes ?
Alors, c'est très classique dans la littérature médicale, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Dans l'étude de Finlande en particulier, sur ces 6600 femmes étudiées pendant 45 ans, où il y a 20% d'entre elles présentent un syndrome des ovaires polykystiques, il n'y a pas de risque tout à fait exagéré d'interruption spontanée de grossesse. Donc si le risque existe, il est faible et il n'est pas retrouvé dans toutes les séries.
Alors maintenant, venons-en au traitement de cette infertilité. La première ligne de traitement est souvent la perte de poids, vous l'avez mentionné, qui n'est pas toujours simple à obtenir. Et puis un traitement de l'ovulation par une stimulation par citrate de clomiphène, qui sont des stimulants de l'ovaire par voie orale. Donc c'est assez simple à prendre et ça permet en 2-3 fois de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et puis il y a un médicament qu'on appelle la metformine, que l'on donne habituellement justement dans les problèmes de diabète, donc qui sont plutôt à viser de la résistance à l'insuline. Est-ce que ça reste toujours d'actualité? Est-ce que ce trépied vous convient? Est-ce que vous l'adaptez selon les cas?
Alors, avant le traitement de l'infertilité, on n'a pas le droit de les laisser avec des règles espacées. Il faut donner un peu de progestérone séquentielle ou bien la pilule pour corriger ces anomalies-là et éviter les hypertrophies de la muqueuse utérine. Si elles désirent un traitement des poils, il faut leur donner une pilule ou bien un traitement anti-androgénique un peu plus agressif.
Et pour les traitements anti-androgéniques ne sont pas préjudiciables à la grossesse ?
Non, mais ça, c'est pas pendant la grossesse, c'est en dehors de la grossesse.
D'accord, parce que là, on est dans le cadre.
Bien entendu. Alors, dans le désir de grossesse, ce qui convient de corriger, c'est l'absence d'ovulation. Donc, le but du traitement, c'est de faire ovuler ces femmes. Donc, la première ligne de traitement, et ça, c'est encore une conférence de consensus en 2008, dite conférence de Thessalonique, elle s'est produite là-bas, en Grèce du Nord. Et le citrate de clomiphène, qui est un anti-estrogène, qui ressemble un peu au tamoxifène qui est utilisé chez les femmes qui ont un cancer du sein hormonodépendant. Et c'est la prise de 5 jours de ce médicament fait monter les taux de FSH. Donc finalement, reproduit l'anomalie qui manque, c'est-à-dire le recrutement folliculaire initial chaque mois de ces femmes. Avec le citrate de clomiphène, il y a 80% d'ovulation chez les femmes traitées. Et deuxièmement, à peu près 50% de grossesse. Donc, c'est un traitement qui est particulièrement simple, peu coûteux, mais attention, on part avec des femmes qui ont des ovaires qui contiennent énormément de follicules, donc il faut être prudent dans la dose de citrate de clomiphène, ne jamais dépasser un comprimé, en tout cas au début, par jour, 50 mg, parce qu'il y a un risque que tous ces follicules qui sont dans l'ovaire, ovaires multifolliculaires, qui sont sur les starting blocks, n'attendent que cette stimulation pour tous démarrer en même temps. Donc il faut être très prudent dans la conduite de l'induction de l'ovulation.
Classiquement, on fait 3 cycles de stimulation avec du citrate de clomiphène.
Classiquement, si elles ovulent, parce que c'est ça le but, tous les mois, on peut attendre 6 mois.
Pour en faire 6.
Voilà, si elles n'ovulent pas, au bout de 3 mois, on passe à autre chose. Donc, mais encore une fois, ça marche très bien, c'est la très grande majorité...
Vous n'avez pas répondu, Philippe Bouchard, sur l'intérêt de la metformine donnée systématiquement ou pas?
La metformine est un vieux médicament découvert dans les années 50, qui est un extrait du lilas français, qui est impliqué dans la régulation d'une enzyme qu'on appelle la MP-kinase. Et c'est le traitement de la résistance à l'insuline. Donc c'est devenu maintenant le traitement de référence du diabète de type 2, où il corrige la résistance à l'insuline, qui est une anomalie extraordinairement fréquente chez les 400 millions de diabétiques de type 2 dans le monde, et permet d'améliorer les glycémies, de corriger la résistance à l'insuline et éventuellement aussi d'améliorer le pronostic cardiovasculaire et le risque de cancer qui est lié à la résistance à l'insuline. Donc chez les femmes qui ont des ovaires polykystiques, ce traitement n'est utile que si elles ont des signes de résistance à l'insuline. C'est-à-dire que si elles sont obèses, bien sûr, et à l'examen clinique, on peut déjà repérer un symptôme qui évoque la résistance à l'insuline. Il n'est pas besoin de doser l'insuline, c'est pas très utile. Il suffit de regarder le tour de cou et sous les bras, l'existence de lésions noirâtres, qu'on appelle, comme du temps de Molière, acanthosis nigricans. Et ces petites plaques noirâtres qu'on voit autour du cou et ou sous les bras sont un excellent signe de résistance à l'insuline. Alors, chez les femmes qui ont des ovaires polykystiques, le traitement par la metformine est formidable parce qu'il corrige la résistance à l'insuline et il évite l'apparition du diabète de type 2 chez ces femmes-là, qui est particulièrement, dont le risque est particulièrement élevé. Mais en termes de fertilité, après beaucoup d'errements dans la conduite des essais cliniques, on sait maintenant que ça ne sert à rien. Donc le traitement de l'infertilité, ce n'est pas la metformine, c'est le citrate de clomiphène ou les autres traitements dont on va parler maintenant.
Même si ce n'est pas préjudiciable, on va dire, mais ce n'est pas d'une efficacité démontrée, sauf dans certains cas. Alors ensuite, sur le plan chirurgical, hein, puisque vous avez parlé de ces quartiers d'orange faits par Stein et Löwenthal qui restauraient donc la fonction ovarienne, les gynécologues ont fait maintenant par célioscopie, par laparoscopie, donc dans le cadre d'une journée d'hospitalisation, des trous dans les ovaires, 5 à peu près par ovaire, pour libérer justement cette trop-plein de follicules, qui, lorsque, regardons l'homme, n'oublions pas de regarder que l'homme n'est pas de problème, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Il faut donc restaurer l'ovulation chirurgicalement, c'est assez étonnant, mais ça fonctionne. Et donc de laisser le couple œuvrer naturellement si le sperme du conjoint est parfait et donc pouvoir avoir ainsi des... Pendant 6 mois, 8 mois, on peut suivre selon l'âge de la patiente, bien sûr, si on a le temps, il n'y en a pas d'autres facteurs d'infertilité.
Enfin, alors, oui. Je peux répondre sur ce point. Je voudrais d'abord dire que en ce qui concerne le citrate de clomiphène, il y a une étude magique qui vient d'être publiée. Toujours les études, les travaux les plus simples sont les plus intéressants. On a soumis des femmes avec des ovaires polykystiques avant, 4 mois avant le traitement par le clomide, à un régime drastique pendant 4 mois. Ça améliore les résultats de manière hautement spectaculaire. Donc il ne s'agit pas de leur faire perdre 25 kilos. Il s'agit de les mettre au régime pendant 4 mois pour qu'elles perdent 2 ou 3 kilos. Ça améliore les performances du citrate de clomiphène de manière absolument spectaculaire. Alors, en second lieu, Stein et Löwenthal, pour la chirurgie, avaient donc découvert ce qu'on a appelé ensuite la résection cuniforme. C'est-à-dire qu'on enlève des coins d'ovaire qui font la même chose que Stein et Löwenthal. On diminue la masse de l'ovaire qui fabrique les hormones masculines. Donc aujourd'hui, uniquement dans les formes résistantes au chlomide, il y a deux possibilités. Soit on utilise de la FSH à faible dose, dit ce qu'on appelle le protocole low dose, pour être un peu snob en anglais, parce que c'était inventé par un anglais, Stephen Franks. Soit on fait la résection cuniforme. Mais là aussi, l'idée, c'est de faire donc des trous dans l'ovaire, un drilling ovarien, comme on dit, pas plus que 4, maximum 5 trous dans l'ovaire, de façon à éviter les adhérences et surtout la réduction de la réserve ovarienne. Et les résultats sont assez bons dans ces formes résistantes au chlomide et à mettre en comparaison avec le traitement par de la FSH à faible dose, qui nécessite un peu plus d'expérience, un peu plus de patience, parce qu'il y a un risque de recrutement multifolliculaire chez ces femmes. C'est beaucoup plus coûteux, mais ça marche aussi très 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 bien. Donc, chez la femme qui n'a pas la discipline de prendre le traitement par la FSH à faible dose pendant un certain temps, le drilling ovarien a une place.
C'est-à-dire, le drilling ovarien a une place donc dans ces cas que vous venez de citer, aussi parce que ça restaure la vie conjugale naturelle sans autre médication, ce qui de temps en temps ne fait pas de mal. On garde en dernier effet effectivement la stimulation avec, comme vous l'avez dit, avec des petites doses pour éviter le syndrome d'hyperstimulation qui est un risque puisque tous vont réagir. Et donc, on va souvent faire des fécondations in vitro pour éviter les grossesses multiples parce que si on donne un traitement de stimulation et qu'il y a une réponse maximum, bien sûr, plusieurs peuvent être fécondés, on a un risque de grossesse multiple. D'où l'intérêt, dans ces cas-là, qui ont déjà passé par la perte de poids, par le citrate de clomiphène, éventuellement par le draining, je dirais, de proposer des fécondations in vitro avec un protocole particulier. Rappelons-le, le risque ici, il mérite vraiment de s'y attarder, c'est la réponse excessive qui peut être très embêtante. Donc, c'est un thème, la stimulation de l'ovulation dans le traitement de sérilité, que nous reverrons dans une autre émission, car on n'aura pas le temps de la voir en détail, parce qu'il y a des nouveaux produits qui sont venus, dans lesquels vous avez d'ailleurs, Philippe Bouchard, participé à leur diffusion, tels que les antagonistes, par exemple, la maturation in vitro, qui sont d'autres types, donc la possibilité de congeler les ovocytes avant de les réimplanter. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre ultime de cette prise en charge de l'infertilité, lorsque les premières étapes que nous voulions aborder ici n'ont pas fonctionné. Merci Philippe Bouchard pour cet éclairage sur les ovaires polykystiques. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Danny Journeau, avec Jean-Michel Bernot à la prise de son. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le site internet de Révolution Médicale. Philippe Bouchard ne manquera pas de vous répondre. Podcaster cette émission durant un an pour écouter et réécouter l'excellence de ces dires, et pendant 1000 jours vous pouvez le faire sur le site internet de France Culture sur www.franceculture.fr. Demain, comme tous les jours à 14h, vous avez rendez-vous avec Culture Science. Vous pouvez retrouver Planète Terre de Sylvain Kahn, mais tout de suite vous retrouvez Les Bonnes Feuilles, puis à 15h Culture Musique.